Sri Aurobindo, lettre sur le yoga, la sixième partie, la transformation du subconscient. Alors Sri Aurobindo répond à un de ses disciples. Votre pratique de la psychanalyse était une erreur. Pour le moment du moins, cela a rendu le travail de purification moins facile, plus compliqué. La psychanalyse de Freud est la dernière chose que l'on devrait associer au yoga. Elle se saisit d'une certaine partie de la nature la plus sombre, la plus périlleuse, la plus malsaine, telles les couches subconscientes du vital inférieur, isole quelques-uns de ces phénomènes les plus morbides et leur attribue une action hors de toute proportion avec leur vrai rôle dans la nature. La psychologie moderne est une science dans l'enfance, à la fois imprudente, maladroite, grossière. Comme toutes les sciences primitives, c'est un débordement du mental humain et de son habitude universelle de s'emparer d'une vérité partielle ou locale et de la généraliser indûment en voulant expliquer toute l'étendue de la nature par des termes étroits. En outre, l'exagération de l'importance des complexes sexuels réprimés est une dangereuse fausseté qui peut avoir une influence néfaste et contribuer à rendre le mental et le vital non pas moins mais plus foncièrement impurs qu'auparavant. Il est vrai que le subliminal est la partie la plus importante de la nature humaine et qu'il contient le secret des dynamismes invisibles qui expliquent nos activités de surface. Mais le subconscient vital inférieur, et c'est tout ce que la psychanalyse de Freud semble connaître, et encore n'en connaît-elle que quelques recoins mal éclairés, n'est rien de plus qu'une proportion restreinte et très inférieure de l'ensemble subliminal. Le moi subliminal se tient en arrière et soutient tout l'homme superficiel. Il contient un mental plus large et plus efficace derrière le mental de surface, un vital plus vaste et plus puissant derrière le vital de surface, une conscience physique plus subtile et plus libre derrière l'existence corporelle de surface. Et au-dessus d'eux, il s'ouvre à des régions supraconscientes supérieures, de même qu'au-dessous, il s'ouvre à des régions subconscientes inférieures. Si l'on veut purifier et transformer la nature, c'est au pouvoir de ces régions supérieures qu'il faut s'ouvrir et s'élever, et par elles, changer à la fois l'être subliminal et celui de surface. Même cela doit être fait avec soin, ni prématurément, ni imprudemment, en suivant une direction supérieure et en gardant toujours l'attitude vraie, sinon la force attirée peut être très forte pour l'obscure et faible charpente de notre nature. Mais comment pour ouvrir le subconscient inférieur et risquer de soulever tout ce qui est malpropre et obscur en lui et s'écarter de son chemin et inviter les ennuis? D'abord, on doit rendre le mental supérieur et le vital fort, solide et plein de lumière et de la paix d'en haut. Après cela, on peut ouvrir le subconscient et même y plonger avec plus de sécurité, quelques chances de changement rapide et heureux. Le système de vouloir se débarrasser des choses paranubhava est également dangereux, car cette voie, on peut facilement s'enliser davantage au lieu d'arriver à la liberté. Cette méthode repose sur les deux mobiles psychologiques bien connus. L'un, le mobile d'épuisement volontaire, n'est valable que dans quelques cas, spécialement quand une certaine tendance naturelle ont une emprise ou une poussée trop forte pour que l'on puisse s'en débarrasser par vichara ou par le procédé du rejet en mettant le vrai mouvement en place. Quand la poussée est excessive, le sadhak est parfois obligé de retourner à l'action ordinaire de la vie ordinaire et d'en avoir la vraie expérience avec une mentalité et une volonté nouvelle derrière. Puis il revient à la vie spirituelle. Une fois que l'obstacle est éliminé, ou en tout cas sur le point de l'être, mais cette méthode de laisser-aller intentionnelle est toujours dangereuse, bien que parfois inévitable. Elle ne réussit que quand l'être possède une très forte volonté de réalisation, car alors l'assouvissement des désirs amène un grand mécontentement, une forte réaction, le vairagya. Et la volonté de perfectionnement peut alors passer dans la partie récalcitrante de la nature. L'autre mobile de l'anubhava s'applique d'une façon plus générale. En effet, pour rejeter quoi que ce soit de l'être, il faut d'abord devenir conscient de la chose à rejeter, avoir une claire expérience intérieure de son action et découvrir sa place réelle dans le fonctionnement de la nature. Alors on peut agir sur elle pour éliminer, si c'est un mouvement entièrement mauvais, ou la transformer si c'est seulement la dégradation d'un mouvement supérieur et vrai. C'est cela ou quelque chose d'approchant que l'on a essayé grossièrement et abusivement avec une connaissance rudimentaire et insuffisante dans le système de la psychanalyse. Soulever les mouvements inférieurs jusque dans la pleine lumière de la conscience afin de les connaître et de les manipuler est un procédé inévitable, car un changement complet ne peut pas se faire sans cela. Mais ce procédé ne peut vraiment réussir que si une lumière et une force supérieures interviennent suffisamment pour surmonter plus ou moins vite la force et la tendance offerte à la transformation. Bien des gens, sous prétexte d'anubhava, non seulement soulèvent le mouvement adverse, mais le soutiennent de leur consentement au lieu de le rejeter, trouvent des justifications pour le prolonger ou le répéter et ainsi joue avec lui, se plaise à son retour et l'éternise. Ensuite, quand ils veulent s'en débarrasser, il y a une telle emprise sur eux qu'ils se découvrent impuissants entre ses griffes et ne peuvent être libérés que par un terrible conflit ou une intervention de la grâce divine. Certains le font par déformation ou perversité vitale, d'autres par simple ignorance. Mais dans le yoga, de même que dans la vie, la nature n'accepte pas l'ignorance comme une excuse justificative. Ce danger est là chaque fois que l'on manipule maladroitement les parties ignorantes de la nature. Mais aucune partie n'est plus ignorante, plus périlleuse, plus déraisonnable, plus obstinée dans ses répétitions que le subconscient vital inférieur et ses mouvements. Le soulever prématurément ou sans la connaissance du procédé pour en faire l'Anubhava, c'est risquer d'inonder aussi de ce flot sombre et sale les parties conscientes de notre être, et ainsi d'empoisonner toute la nature vitale et même toute la nature mentale. Par conséquent, on doit toujours commencer par une expérience positive et non par une expérience négative, et faire descendre d'abord quelques premiers reflets de la nature divine, de la tranquillité, de la lumière, de l'équanimité, de la pureté, de la solidité divine dans les parties de l'être conscient qui doivent être changées. C'est seulement quand ceci a été fait suffisamment qu'il y a une base plus solide que l'on peut avec sécurité soulever les éléments adverses cachés dans le subconscient afin de les détruire ou de les éliminer par la puissance de la tranquillité, de la lumière, de la force et de la connaissance divine. Même ainsi, il y aura toujours assez d'éléments inférieurs qui se soulèveront d'eux-mêmes pour vous procurer autant d'Anubhava qu'il vous en faut afin de vous débarrasser des obstacles. Mais dans ce cas, on peut les manipuler avec beaucoup moins de danger et sous une direction interne supérieure. Sri Aurobindo, lu par Ganga Lakshmi. Je dépose cette lecture au pied de Sri Aurobindo et de Douce Mère.